On est de retour. On vous rappelle que les Blue Jays sont en action présentement et mènent 4-0 en quatrième manche face aux Rangers du Texas. On est devant une salle comble pour ce match d'ouverture. Mats est au monticule pour les Jays. Fait du bon travail. Est un peu dans l'eau chaude en quatrième, mais semble vouloir s'en sortir. C'est également la semaine du Master. Mon prochain invité, c'est sûr qu'il va suivre ça, mais c'est pas pour ça que je l'appelais aujourd'hui. Je vous l'ai dit tantôt avant la pause. Il y a le match du Canadien. Pour moi, il y a une petite odeur de séries éliminatoires. Il fait printemps d'or, les Oilers, le Canadien. Mais quand le match va être fini à 9h30, déjà un match sera commencé. Et les yeux du sport à travers, oh, je pense que je peux dire le monde, vont regarder. Parce que quand je regarde mon fil Twitter, après le match de demi-finale, je peux vous dire que tous les grands athlètes, LeBron James, Pat Mahomes, tout le monde ne faisait tweeter que sur le March Madness. Ray Lalonde, salut.
Salut, Martin.
J'ai raison, c'est pas juste en Amérique du Nord qu'on va regarder ça, c'est à travers le monde.
Écoute, Martin, le basketball, c'est le deuxième sport le plus populaire en consommation commerciale dans le monde entier, derrière le soccer, le football. Et la raison, c'est qu'on joue du basketball de haut niveau, de grande qualité, avec diverses ligues professionnelles dans des pays partout, de l'Espagne jusqu'au Vietnam, jusqu'aux Philippines et jusqu'en France. Alors, ces gens-là, ils savent tous que l'univers de basketball, ça commence avec la NBA. Et juste derrière ça, la NCAA est tellement bien construite en termes de produits. Ça rejoint les pays dans le monde entier. Les jeunes de l'Afrique à l'Europe, à l'Asie, rêve d'atteindre les collèges universitaires américains pour avoir une bourse, puis pour un jour peut-être se rapprocher de la NBA. Fait qu'évidemment, les yeux sont rivés sur ce tournoi-là. C'est le plus grand et le plus impressionnant tournoi au monde.
Hier, les femmes ont mis la table, si tu le veux, avec une finale. Stanford l'a emporté 54-53 face à Arizona. Dans ce match, il y avait deux joueuses canadiennes. Donc, on a une Canadienne championne du... du March Madness, du côté de la NCAA, du côté féminin. Et il y a également un garçon qui va jouer du côté des hommes aujourd'hui. Donc, on pourrait avoir une Canadienne et un Canadien champion du March Madness.
Bien, tu sais, les Raptors, Martin, quand ils sont arrivés dans la NBA en 95-96, c'était le début là, de l'aspect rapprochement avec le basketball de haut niveau. Il y en avait des Canadiens qui avaient atteint la NBA dans le passé. T'sais, je me rappelle de joueurs qu'on connaît bien, comme Steve Nash, qui est aujourd'hui l'entraîneur des Nets de Brooklyn. Je pense à celui qui jouait avec les Bulls de Chicago, le Montréalais, Bill, j'oublie son nom de famille, ça va me revenir. Il y a des Canadiens qui ont connu des bonnes carrières, qui ont atteint la NBA. Mais depuis les Raptors, une génération d'à peu près 25 ans, soudainement, les jeunes commencent plutôt à jouer, veulent devenir compétitifs, veulent atteindre les rangs professionnels et passent par le système américain. Les Raptors, ça leur a pris du temps à se mettre en branle en termes de popularité. Puis c'est pas juste lié au championnat en 2019 là, que je veux dire ça, c'est que ça fait déjà une dizaine d'années qu'une vague de jeunes dans la région de Toronto, puis à Montréal et au Québec, qui atteignent les rangs universitaires, garçons et filles, aux États-Unis, et puis qui aspirent à des carrières où ils peuvent faire leur marque dans la NBA. Puis les deux Québécois qu'on parle, Chris Boucher régulièrement, Dougan Lort, puis tu sais, du côté des femmes aussi, il y a des Québécoises qui ont atteint les universités comme Syracuse, puis comme Oregon et ainsi de suite. Bien, ça fait en sorte que ça inspire les autres, la prochaine génération, à vouloir poursuivre le basketball comme sport de prédilection. Puis on voit le résultat lorsqu'ils deviennent des champions nationaux de la NCAA dans un tournoi qui est tellement important aux yeux du monde.
Oui, alors c'est Alyssa Jerome qui a remporté hier. Elle a défait Shanaya Pellington. Et ce soir, c'est Andrew Nebhard qui va jouer pour du côté de l'Université de Gonzaga. Là, Gonzaga, le monde trippe en raison de cette demi-finale. Tout le monde en a que pour Suggs et Gonzaga. Qu'est-ce qu'on va avoir ce soir, Ray, comme match entre Baylor et Gonzaga?
C'est les deux meilleures équipes depuis le début de l'année, les deux meilleures équipes depuis 2 ans, mais c'est juste qu'il y avait trébuché en cours de route l'an dernier. Ils ne s'étaient pas affrontés, mais Baylor, c'est une équipe qui mérite d'être en finale nationale. C'est une équipe de haut niveau. Baylor, c'est dans la région de Waco, Texas. Ça fait partie des grandes villes aux États-Unis universitaires. Ça fait partie des institutions qui sont nombreuses. Je pense qu'il y en a 7 ou 8 dans l'État du Texas qui jouent au basketball de premier niveau. Mm-hmm. Gonzaga, oui, c'est dans l'État du Washington.
Je vais t'arrêter une seconde. T'es un freak, t'es un geek, t'es une référence sur le basketball de la NCAA. Moi, un profane, je connais rien. Il y a des gens qui nous écoutent, ils font bah. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, dis-moi pourquoi les gens ce soir devraient pas manquer ce match. Vends-moi-le. Pourquoi? Parce que moi, je suis vendu, je vais le regarder. Mais oui. Les gens qui ne suivent pas ça, pourquoi?
Bien, tu as une équipe invaincue, 31-0 Gonzaga, qui espère être la première équipe depuis 1976 à remporter le titre et la saison sans perdre un match. C'est rare. La dernière fois, c'était les Hoosiers d'Indiana de Bobby Knight comme coach. Ça fait 16-24 plus 21, 45 ans. C'est long. Ouais. Baylor, 27 victoires, 2 défaites cette année. C'est une équipe qui détruit l'adversaire systématiquement, plein de talent dans les deux équipes. Bon, oublie ça, là. Si c'était un match habituel de saison, je te dirais, ben là, les endurcis vont regarder. Non, parce que c'est March Madness. Et ce mot madness, qui signifie la folie, ce qui est absolument dramatique, on le voit à tous les matchs. Hier, les femmes, là, Stanford par un point. Un point contre Arizona. Puis la jeune dame McDonald d'Arizona qui avait le ballon dans ses mains à la fin, là, malgré le fait qu'elle était couverte par 3 adversaires, son ballon a quand même atteint la cible, elle a raté. Sinon, Arizona gagnait. Et l'autre jour, c'était Connecticut. Connecticut, de Martin, pour ton information, c'est une équipe parmi le sport mondial la plus mythique depuis 15 ans. Ils ont eu à un moment donné une séquence, Martin, là, de 126 victoires consécutives en saison régulière et 111 victoires tournois inclus. De suite. Ça, c'est comme pas perdre pendant 3 ans et demi. Et là-dedans, 12 finales du Final Four consécutives. Fait que ça s'appelle légendaire, là. Absolument. Alors, si on se penche un peu et on regarde les affrontements, puis on se donne la peine, comme l'autre soir, là, UCLA, là, c'est une équipe qui a dû se qualifier pour arriver dans le tournoi. Mais ils ont quand même poussé à la limite de la première prolongation Gonzaga dans un match avec une fin historique. Fait que là, on peut pas ce soir passer à côté. À part du fait que ça commence un peu tard à 9h20, puis ça va se terminer autour de minuit, parce que c'est long des fois les matchs de basketball à cause des time-outs. Mais c'est tellement incroyablement passionnant. T'es rivé sur ton siège jusqu'au dernier moment parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui peut changer en dedans 2-3 secondes. Mm-hmm. Ça prend 2-3 secondes. Si UCLA avait serré défensivement un peu plus avec 3 secondes, il allait en deuxième période de surtemps. Ils ont laissé le gars de Gonzaga traverser le terrain puis tirer là, un tir à bout portant. Il l'a eu, ils ont perdu le match. Non, mais c'est époustouflant.
Ah, puis il referait ce coup-là 5 fois, puis peut-être qu'il en manquait 4 fois sur 5.
C'est sûr. Peut-être qu'il en manque 9 sur 10.
Exact, exact.
Mais mon point, c'est que c'est ça qui rend la cause tellement palpitante.
Ah ouais.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rater ça. Comme je te dis, en saison régulière, c'est sûr que c'est des matchs qui sont nombreux, puis ça passe, puis ça revient. Bon, mais en série comme ça, quand c'est une braquette ou une défaite, puis t'es sorti, l'enjeu est là.
Lucas Oil, bon, c'est le stade des Colts d'Indianapolis. Oui. En temps normal, ça serait plein. Oui, un stade de football plein pour un match de basketball. Là, qu'est-ce qu'on va avoir ce soir?
Bien, on va avoir à peu près le quart de ça. Tu vas avoir à peu près l'équivalent entre 20 et 22 000 personnes. Ouais, c'est quand même bien. Ils remplissent des sièges avec des cartons autrement. Ça fait une bonne ambiance. Écoute, Martin, je suis allé là, au Final Four, au Kingdome à Seattle. Le Kingdome a été terrassé depuis. Là. Ils ont bâti un nouveau stade.
Ouais.
Mais c'était l'ancien domicile des Seahawks à l'époque. Puis c'est en 1984. Ça remonte à longtemps. Puis Patrick Ewing jouait pour les Hoyas de Georgetown. Puis Hakeem Olajuwon jouait pour les Cougars de Houston. Ça, là, je te le dis, de mes yeux, je l'ai vu, là. Depuis ces années-là que je trippe sur le basketball de la NCAA, parce que c'est le spectacle, c'est l'engagement, c'est l'émotion. Ça, c'est du divertissement, là. Tu peux pas jamais en rater une parce que tu vas passer à côté de quelque chose qui devient historique. Même, comme tu l'as dit tout à l'heure, les célébrités, les athlètes du monde qui ont regardé le match UCLA, là, ils étaient tous rivés dans la NBA sur ce match-là.
Ben écoute,
et pourtant, c'est des collégiens.
Quand ça commençait à péter sur Twitter, puis je voyais Suggs, mon premier réflexe était l'ancien joueur des Ravens, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça.
C'était ça mon réflexe de ne pas savoir ce qui se passait. Fait que là, je commence à chercher, puis là, je vois ce joueur de basketball qui te pousse à la table. Fait que j'ai fait mes recherches, puis je suis arrivé, puis j'ai bien vu que j'avais manqué quelque chose. T'sais, les gens qui l'ont vécu live ont eu un bien plus gros buzz que moi. Là.
Mais oui, mais donner deux statistiques sur le tournoi de la NCAA là, qui dure 3 semaines, pour te mettre ça dans le contexte. En 3 semaines, le tournoi March Madness génère plus d'argent qu'une saison complète de la Ligue nationale pour tous les diffuseurs combinés.
Okay.
Ça, ça inclut NBC, ça inclut Rogers au Canada.
Wow.
Et ouais. Alors, 890 millions que Fox, pardon, que CBS et Turner Broadcasting payent pour ces 3 semaines de tournoi seulement. L'autre chose, il y a plus d'argent en publicité dans le tournoi March Madness que dans le Super Bowl.
Oh,
ça,
ouais.
C'est pas peu dire parce que tu sais que le Super Bowl
ben oui.
vend des pubs à 5,5 millions pour 30 secondes. Ça coûte moins cher aux 30 secondes dans le tournoi. Mais il y a plus d'argent publicitaire dans le tournoi que dans le Super Bowl. Alors, c'est pas une petite affaire, là. C'est des universitaires. Mais à la fin, ils se comportent comme des professionnels. Ils attirent les regards des médias et du peuple comme des professionnels. C'est un spectacle à ne pas manquer.
Ray, c'est sûr, dans les prochaines semaines, avec Mario Langlois, tu vas parler du Master qui s'en vient. Tu vas parler de plein de choses. Ce matin, là, sur Twitter, tout le monde, c'est Monday Master, bonne semaine de Western, c'est partout.
On a le temps, c'est jeudi.
Oui, tu vas parler de la COVID parce que les Canucks, ça. Mais il y a quelque chose que peut-être personne ne t'en parlerait. Puis moi, écoute, Mario, à mise en onde, c'est même pas que je vais faire ça. J'ai écouté les gars de la Poche Bleue en entrevue avec Julien Brisebois. Je ne sais pas si tu as eu vent. Il a raconté quand il a fallu qu'il aille acheter Youpi puis qu'il aille le chercher. Puis tu es dans l'histoire. Je ne sais pas si tu as été mis au courant. Mais quand tu as fait l'achat de Youpi, Julien Brisebois l'a raconté à Poche Bleue. C'est drôle en temps.
Faudrait que j'écoute ça. Ben oui, je me souviens très bien. On a fait signer les papiers d'adoption avec, avec Youpi qu'on a littéralement adopté du baseball majeur et des expos. On
exact.
A fait un gros contrat. Honnêtement, off the record, ça coûtait cher à avoir notre Youpi pour le ramener avec les Canadiens.
Julien n'a pas voulu le dire. Toi, tu peux-tu me le dire?
Non, je peux pas te le dire non plus.
Oh,
mais ça coûtait cher. Mais ça valait le coup. Regarde
ben oui.
la renaissance de Youpi, ce que ça apporte aux Canadiens et aux jeunes partisans. On a créé Youpiville au Centre Bell. T'sais, on en a fait des coups comme ça qui étaient dans le but toujours de convertir des tout jeunes à la cause des Canadiens. Puis ces tout jeunes-là, Martin, aujourd'hui, ben, sont de jeunes adultes. Qui adorent les Canadiens, puis qui dépensent et consomment et regardent avec intérêt, puis sont fidèles. Ça commence jeune, il faut que tu sèmes, puis après ça, il faut que tu récoltes plus tard. Puis on voit le résultat aujourd'hui.
Il a raconté que tu étais tout seul dans un bureau avec Jean Héroldi parce que la mascotte avait besoin d'amour quand elle est arrivée.
Oui, besoin d'amour, besoin d'un nouvel uniforme, besoin d'un peu de design, besoin d'être, épuvé un peu, lavé, si on veut, là. Fait que on a fait plein de choses, puis on a eu, tu sais, on avait aussi celui qui avait fondé, là, je me souviens pas de son nom là à l'instant, avec les expos,
Youpi?
Qui avait été à l'origine de Youpi.
Roger?
Non, Roger pas Brulant? Roger, non.
Monsieur Morazzi?
Non, il était, je pense qu'il habitait à Saint-Anne-de-la-Pérade, où on l'a ramené pour participer à la cérémonie.
Ah ouais.
Oui, et puis c'était vraiment émouvant, là. Puis on avait littéralement, Bob Gainey était là. Ça a été quelque chose qu'on a fait en grande pompe parce que c'était vraiment important. Puis je te rappellerai que c'était au retour du lockout.
Ouais.
Fait qu'on venait de rater une saison complète. On est arrivé avec les tirs de barrage, puis les nouveaux chandails avec un nouveau tissu qui était plus performant pour les athlètes. Et Youpi, on a mis un jeune garçon sur la glace, tu sais, ou jeune fille pour patiner avec le drapeau. On a fait plein de choses comme ça. Qui était dans le but d'aller conquérir le cœur des tout-petits, puis ça a fonctionné.
J'étais encore à CKAC Sport ici même à l'époque, quand Youpi est arrivé, puis je faisais les émissions d'avant-match en séries éliminatoires. Et le gars qui faisait Youpi était venu taper du pied sur le stage, parce que c'était un stage en bois, fait que ça faisait du bruit.
Ouais.
Et on avait des réchauds pour nous réchauffer. Et il avait la tête dans le réchaud. Fait que j'étais en onde avec Danny Dubé, puis je disais au gars, Youpi, t'es après brûlé, et j'étais sérieux. Fait que là, il me faisait des thumbs up puis des points dans les airs en disant, il est content. Je dis, non, tu brûles pour vrai. Et il a fallu éteindre la tête de Youpi. Alors, on a beaucoup ri de ça, mais tu pensais pas parler de Youpi à soir? Hein?
Non, mais c'est toujours un plaisir parce qu'honnêtement, le jour qu'on l'a mis dans le vestiaire, je me souviens une journée, on l'a introduit avec les joueurs dans le vestiaire. Première visite, les photos officielles. C'était vraiment quelque chose de vraiment passionnant. On était tous revenus un peu à un jeune âge dans notre cœur d'enfant. Puis, encore une fois, j'applaudis cette décision-là qu'on a prise comme organisation. Puis,
il y a quelqu'un qui écrit sa messagerie texte, Roger Deslandry.
Roger Deslandry, merci.
Merci. C'est un auditeur qui a eu la gentillesse.
Dans plein ça. Alors, M. Landry, c'est un gentleman, beaucoup de classe. Il nous avait aidés à tous les niveaux. Tu sais, il fallait qu'on négocie avec le baseball majeur. C'est là que Julien et moi, on a collaboré ensemble là-dessus parce qu'il fallait qu'on C'est le baseball majeur qui est propriétaire du logo et la marque des Expos, encore aujourd'hui. Comme c'est la NFL qui est propriétaire d'anciens logos et la Ligue nationale de hockey, celui des Nordiques, celui des North Stars du Minnesota.
Ah oui.
Ça appartient aux ligues, ça.
Okay.
Alors, si tu voulais faire quelque chose qui impliquait le baseball ou une ancienne équipe, comme les Expos qui avaient quitté, il fallait que tu repasses par le baseball majeur.
On t'irais, t'irais écouter ça, parce qu'entendre Julien Brisebois qui dit « Je suis allé chercher ça avec les Canadiens du Canadien, toute blanche au stade olympique. » Puis toi, je t'imagine tout seul dans un bureau Centre Bell avec Jean Héroldi à regarder ça puis faire « Bon, qu'est-ce qu'on fait? »
Ouais, c'est ça. Mais regarde, à la fin, tu sais, c'est toujours un travail d'équipe, ces choses-là. Puis Julien puis moi, on a toujours une bonne relation, encore aujourd'hui, là. Puis vraiment fier de lui. Alors, j'espère qu'il y a une mascotte de ce calibre-là pour le Lightning, mais c'est pas facile à répéter ce que Youpi fait.
C'est clair. Un gros merci, Ray. Puis je te laisse aller écouter ça.
Avec plaisir. Salut, Martin. À bientôt.
Bye. On s'arrête au retour. Bruno Gervais vient nous parler et du Canadien et d'une équipe qui perd presque jamais, le Rocket.